Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci de votre fidélité, bienvenue, appelez-nous, exprimez-vous, l'antenne vous appartient et dans 30 minutes, nous lancerons le débat sur le report des élections en République démocratique du Congo. Selon l'accord politique conclu entre la majorité et l'opposition, les scrutins présidentiels et législatifs doivent se tenir avant le 31 décembre de cette année. Seulement voilà, la loi prévoit un délai de 90 jours pour convoquer le corps électoral et ce délai est dépassé depuis samedi. Alors pour justifier ce retard, la commission électorale invoque des contraintes techniques. Alors êtes-vous convaincu par ces explications? En tout cas, l'opposition appelle à une transition sans le président Kabila à partir du mois de janvier. Quelles peuvent être donc les conséquences de ce report? À quand des élections en RDC? Vous êtes nombreux évidemment à souhaiter prendre la parole. Vous continuez à nous rejoindre. 33 9 693 693 70. Et je jette un coup d'œil pendant que je vous parle sur la page Facebook de l'émission. Continuez évidemment à poster vos commentaires, j'en lirai quelques-uns tout au long du débat pour alimenter la réflexion. La page officielle de l'émission RFI appelle sur l'actualité. Mais d'abord, comme tous les matins à cette heure-ci, vous le savez, ce sont vos questions à la rédaction de RFI. Alejandro Valente, le chef du service des sports, est à mes côtés. Bonjour Alejandro.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Des questions évidemment après le référendum sur l'indépendance organisé dimanche en Catalogne. Alors vous me direz, mais que vient faire Alejandro Valente? On parle de politique, on parle d'indépendance. Eh bien, plusieurs auditeurs nous ont contactés depuis dimanche pour connaître l'avenir du Barça notamment. Le Barça qui a pris position dans ce bras de fer entre la Catalogne et le pouvoir central de Madrid. Bonjour Asted.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Libreville au Gabon.
Oui, tout à fait.
Nous vous écoutons.
Alors j'ai deux préoccupations. La première, c'est de savoir, le Barça et certains cadres de ses joueurs ont pris position par rapport au référendum. S'il est acté, qu'adviendra-t-il du Barça en Liga et des joueurs jouant au Barça qui sont dans l'équipe nationale espagnole?
Oui, bonne question. Alejandro Valente, d'abord, avant de répondre à Asted, est-ce que cette prise de position du Barça qui a clairement choisi son camp en défendant le référendum d'indépendance, le Barça qui d'ailleurs se joint aujourd'hui au mouvement de grève générale en Catalogne, le stade Camp Nou sera fermé, les joueurs n'iront pas s'entraîner de la journée, est-ce que cette prise de position a surpris en Espagne?
Non, disons que le dossier Barcelone est toujours un dossier un peu embarrassant pour les mouvements indépendantistes en Catalogne, parce que c'est vrai qu'ils essayent de minimiser les conséquences que le Barça subirait en cas d'indépendance, c'est dont on est encore très loin, bien sûr. Et donc, en général, ils disent Barcelone pourra continuer à jouer le championnat espagnol, et si jamais on veut pas de nous dans le championnat d'Espagne, on pourra jouer dans d'autres grands championnats. La vérité, c'est que ce n'est pas tellement crédible comme discours. Normalement, si un pays devient indépendant, il a son propre championnat et les clubs doivent y participer. Mmh. En tout cas, la loi du sport en Espagne interdit formellement à des clubs non espagnols d'y participer. Il y a une exception qui est faite pour certains clubs de l'État d'Andorre,
oui,
qui évoluent en troisième division et qui historiquement avaient participé à des tournois locaux et donc qui sont toujours autorisés. Mais avec le Barça, on passerait dans une autre dimension.
Ouais, en tout cas, le président de la Liga, donc du championnat espagnol, a été très clair il y a encore quelques jours. Il a menacé d'exclure le Barça du championnat d'Espagne en cas d'indépendance. On n'y est pas encore. On ne sait pas d'ailleurs quelle sera la stratégie du président du gouvernement catalan. Quid des joueurs catalans qui ont pris position ces derniers jours, ces dernières heures, pour soutenir ce référendum, des joueurs que l'on retrouve également avec le maillot rouge de la sélection espagnole?
En fait, il y a un seul joueur dans ce cas, c'est Gérard Piqué, qui effectivement est allé voter dimanche, qui n'a jamais pris position en faveur de l'indépendance, mais qui avait défendu l'idée du référendum. Les autres joueurs catalans de Barcelone ont évité de se prononcer. C'est le cas des Busquets ou des Jordi Alba, par exemple. Et ils étaient favorables à l'idée de jouer le match dimanche dernier contre Las Palmas, alors que Piqué, lui, comme d'autres dirigeants de Barcelone, était plutôt pour ne pas jouer ce match. Alors la plupart des joueurs estimaient qu'il était dommage, alors que Barcelone est en tête du classement, de perdre plusieurs points en cas de refus de jouer.
Le match a été joué.
Le match a été joué à huis clos, absolument. Ouais. Donc on voit que quand même les soutiens à ces mouvements, disons, de pro-référendum, n'étaient pas très importants au sein de l'effectif. Bon, il y a tous les joueurs étrangers, bien sûr, ou qui sont d'autres régions qui ne sont pas directement concernées. Mais à part Piqué, effectivement, il n'y avait pas d'autres prises de position au sein de l'effectif.
Il y a des voix qui s'élèvent pour réclamer l'exclusion de Gérard Piqué de l'équipe d'Espagne.
Oui, disons que c'est un peu dommage, mais c'est un peu les conséquences logiques de cette crispation qui existe aujourd'hui en Espagne. Gérard Piqué est souvent pris pour cible dans la mesure où quand on a par exemple les finales des Coupes d'Espagne, etc., les supporters catalans insultent le roi ou attaquent les symboles espagnols. Donc c'est un peu un retour de bâton de la part des supporters d'autres régions à l'encontre de celui qui fait un peu figure des têtes pensantes et des symboles de ce mouvement au sein de l'effectif de Barcelone. Mais Piqué a été très clair, et d'ailleurs tous les joueurs catalans, si jamais un jour la Catalogne devenait indépendante, pourraient choisir entre jouer pour l'équipe d'Espagne ou jouer pour la nouvelle équipe de Catalogne. Et en sport, c'est très simple, il faut choisir une équipe, donc il faudra choisir, et à ce moment-là, ce sera un choix définitif.
On n'en est pas encore là. Pour l'instant, c'est de la politique fiction. Asted, on a répondu à vos questions?
Très bien, Juan, merci beaucoup.
Eh bien, merci surtout Alejandro Valente, le chef du service des sports de RFI. À bientôt, Alejandro.
À bientôt.
Merci, Asted. Bonne journée à Libreville, où il est 9h16, 10h16 ici à Paris, 33 9 693 693 70. Donald, bonjour.
Oui, bonjour, Juan.
Bienvenue. Vous nous appelez de Paris, Donald, et vous avez des questions sur le nouveau plan de l'Union européenne pour accueillir des réfugiés.
Oui, Juan. Bonjour Juan, bonjour les éditeurs de RFI. Oui, l'Union européenne a proposé d'accueillir 50 000 de réfugiés dans les deux années à venir. Et il revient apparemment que ces pays sélectionnent les réfugiés. Alors Juan, ma question est suivante. Quels sont les critères de sélection des réfugiés? Et ma deuxième question, quelles sources de financement dispose l'Union européenne pour accueillir les réfugiés?
Alors, vous avez entendu que désormais les pays membres pourront sélectionner eux-mêmes les réfugiés qu'ils accueilleront dans leur territoire. Alors, on se souvient du précédent plan de la Commission européenne. Les États membres s'étaient vus imposer une répartition par quota des réfugiés, ce qui avait suscité d'ailleurs l'hostilité d'un certain nombre de pays comme la Pologne et la Hongrie. Bonjour Pierre Benazet.
Bonjour Juan, bonjour Donald, bonjour à tous.
Vous êtes l'un des correspondants de RFI à Bruxelles. Ce nouveau plan est clairement beaucoup moins ambitieux que le précédent. Expliquez-nous les grandes lignes et comment les États vont-ils sélectionner ces réfugiés?
Alors, beaucoup moins ambitieux, oui et non, parce que finalement, comme vous l'avez dit, le premier plan a eu du mal à se mettre en place et du mal à fonctionner. Finalement, pour l'instant, en 2 ans, on a réussi à réinstaller uniquement 29 000 personnes. Réinstaller, ça veut dire aller prendre des personnes éligibles au statut de réfugié en dehors de l'Union européenne pour les amener dans l'Union européenne. L'ambition du plan qui vient de s'achever, c'est donc 37 000 au total, parce qu'il n'est pas terminé. Donc là, avec 50 000, si on arrive à ce chiffre, on sera au-delà, évidemment. Alors, la sélection, elle est assez simple parce que les critères sont déjà connus. Il y a d'une part l'exclusion rapide de toutes les personnes qui ne peuvent pas être éligibles au statut de réfugié, c'est-à-dire les réfugiés, les migrants économiques. Donc, ceux-là font l'objet d'une autre politique, une politique de retour qui est assez en place actuellement, on a vu ses effets avec des accords entre l'Union européenne et les pays dits d'origine. Ça, c'est la politique de retour. Pour les autres, il y a d'abord, pour l'éligibilité au statut de réfugié, un facteur statistique qui est que on prend les pays qui ont un taux de reconnaissance dans l'Union européenne au-delà de 3/4, c'est-à-dire les pays d'origine dont les 3/4 des demandes sont acceptées dans l'Union européenne. Pour l'instant, par exemple, je peux vous citer l'Érythrée, la Syrie, les Yémen, les Bahamas, étonnamment, Bahreïn, Bhoutan, Qatar et les Émirats. Ça, c'est la statistique générale. Et puis, évidemment, il y a une priorité sur les enfants au titre des statuts de protection des Nations Unies, et donc une priorité pour les familles. Et puis, on sait que l'Union européenne cible des pays en particulier, donc à la fois la Corne de l'Afrique et l'Afrique du Nord dans ce programme. Donc je peux vous le dire, c'est Libye, Égypte, Niger, Tchad, Soudan et Éthiopie. Donc les personnes qui sont soit originaires de ces pays, soit en transit, parce que ça compte aussi, qui viennent de pays à crise la plupart du temps. Donc ça, c'est les critères de sélection globaux. Et normalement, la Commission propose que ce soit harmonisé au niveau européen et que ce ne soit pas uniquement les statuts actuel utilisé par les pays d'accueil, et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle met de l'argent sur la table.
Oui, elle met de l'argent, elle met l'équivalent de 10 000 euros par réfugié.
Oui, c'est ça. En gros, l'enveloppe globale, c'est 500 millions d'euros. Donc, un demi-milliard d'euros, ça fait effectivement, si les 50 000 sont accueillis, 10 000 euros par réfugié. Ces fonds, pour être très précis, ils proviennent de ce qu'on appelle le fonds d'asile et migration, d'asile, migration et intégration, qui a été mis à la hauteur de 3 milliards d'euros sur 7 ans. Donc, on en prend une grande partie pour ce plan-là. Il y a d'autres sources de financement dans l'Union européenne qui sont utilisées aussi pour cette problématique des migrations. On a le fonds fiduciaire pour l'Afrique qui a déjà mis 3 milliards d'euros à disposition pour le Sahel et les pays du lac Tchad pour les questions de migration. Et puis il y a aussi un nouveau plan d'investissement extérieur que l'Union européenne met en place, dont elle espère, avec des partenariats publics-privés, qu'ils vont déclencher 44 milliards d'euros d'investissement. Et ça, c'est la préoccupation de base de l'Union européenne actuellement. C'est rendre les conditions de vie dans les pays de départ meilleures, de manière à éviter la tentation de la migration économique.
Pierre Benazet en direct de Bruxelles, où se trouve le siège de la Commission européenne. Donald, on vous souhaite une bonne journée. Merci de nous avoir appelés. Vous nous écoutez sur les 89 FM, ici à Paris, en région parisienne, donc 10h22. Vos questions, on poursuit. On revient d'ailleurs sur le référendum de la semaine dernière sur l'indépendance du Kurdistan irakien. Victoire écrasante du oui à l'indépendance. Le oui a recueilli près de 93% des suffrages. Et comme promis, nous avons rappelé Alpha Amadou. Il était hier en fin d'émission avec nous. Il n'a pas eu le temps de poser sa dernière question. Donc voilà, on tient notre parole. Alpha Amadou, bonjour.
Bonjour Monsieur Wame, bonjour à tous les auditeurs.
Vous nous appelez du centre de la Guinée, vous êtes à Lelouma exactement.
Oui, c'est ça.
On vous écoute.
Le référendum d'autodétermination du Kurdistan irakien, le président turc Recep Tayyip Erdogan a brandi des menaces contre ce dernier. Sur ce, j'ai envie de savoir de quelle marge de manœuvre dispose la Turquie pour faire imposer sa volonté.
Oui, la Turquie qui craint que la création d'un État kurde en Irak ne fasse tache d'huile et n'encourage les velléités indépendantistes des 15 millions de Kurdes qui vivent en Turquie. Bonjour Arthur Kenet.
Bonjour.
Chercheur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste de l'Irak, vous rentrez du Kurdistan irakien, vous avez suivi justement ce référendum. Samedi, le président turc Recep Tayyip Erdogan a assuré que le Kurdistan irakien en paiera le prix après la tenue de ce référendum. Concrètement, quelle est la marge de manœuvre de la Turquie ?
Eh bien, c'est une excellente question. Actuellement, c'est très difficile de lire à l'intérieur comment fonctionne le gouvernement turc de l'intérieur. Évidemment, sur le plan politique, la Turquie est opposée au référendum et va prendre toutes les mesures politiques nécessaires, c'est-à-dire une alliance avec Bagdad, des exercices militaires à la frontière du Kurdistan irakien. Sur le plan économique, en revanche, les sanctions de la Turquie sont beaucoup plus incertaines. La Turquie étant très dépendante de l'exportation du pétrole depuis le Kurdistan irakien et également du tissu économique, c'est-à-dire 70% des PME, des petites entreprises au Kurdistan irakien sont turcs. Et donc, bloquer la frontière et les échanges économiques avec le Kurdistan irakien affectera énormément la Turquie.
Ça veut dire, si je comprends bien, la Turquie, finalement, elle a entre ses mains la clé pour asphyxier économiquement le Kurdistan, mais la Turquie doit faire preuve de prudence, puisque vous parliez de ces liens commerciaux entre la Turquie et le Kurdistan irakien. Si elle adopte des sanctions trop sévères, cela pourrait donc se retourner contre elle, et donc contre l'économie turque.
Il ne faut pas non plus exagérer le poids des échanges avec le Kurdistan irakien dans l'économie turque. Cependant, de façon certaine, oui, la Turquie a à perdre d'un embargo avec le Kurdistan irakien. Le Kurdistan irakien étant devenu une sorte de colonie économique turque ces 10 dernières années.
Oui, effectivement, il y a plus de 1300 entreprises turques installées au Kurdistan irakien. Une intervention militaire, ça vous semble plausible ou pas de la part de la Turquie ?
Non. Ah non, absolument pas. Pour l'instant, aucun des acteurs ne met l'option militaire sur la table. La guerre contre l'État islamique est encore en cours, il y a énormément de contingents occidentaux au Kurdistan irakien, donc toute intervention est négative pour l'instant.
Merci beaucoup Arthur Kenney d'avoir été avec nous ce matin. On remercie Alpha Amadou qui nous appelait donc de l'Elouma en centre de Guinée. Il nous reste 5 minutes. Dernière question pour ce matin et puis évidemment nous prendrons d'autres questions demain dès 8h10 temps universel. Claude, vous êtes à Douala au Cameroun.
Bonjour Juan, merci de m'accueillir sur l'antenne RFI.
Eh bien, merci à vous de nous écouter, de nous appeler. Vous avez des questions sur les conséquences dramatiques de la crise du Grand Kasaï en République démocratique du Congo.
Bien évidemment, Juan. J'ai quelques questions concernant la crise dans le Kasaï. En effet, tout récemment, l'UNICEF a déclaré que près de 7 millions d'enfants ont été affectés par cette crise. Alors, à ce sujet, j'ai deux petites questions. La première, c'est de savoir de quelle manière sont affectés ces enfants dans cette crise.
Alors,
et la,
oui.
deuxième, c'est de savoir que compte faire l'UNICEF pour pouvoir sauver ces enfants.
Oui, selon l'UNICEF, vous le disiez, Claude, hein, au moins 7 millions d'enfants de moins de 18 ans sont affectés par les violences dans le Kasaï, des violences qui ont fait en un an plus de 3 000 morts. Ce sont les chiffres de l'Église catholique congolaise. L'ONU estime à près d'1,5 million le nombre de personnes qui ont fui leur foyer ces 12 derniers mois. Yves Villemot est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le chef de la communication de l'UNICEF en République démocratique du Congo. Vous êtes à Kinshasa. Les enfants sont affectés de différentes manières par cette crise du Kasaï. Peut-être l'impact le plus direct, c'est le fait que de nombreux enfants sont clairement utilisés dans les combats.
Oui, donc les estimations, c'est le cas. Les estimations du cluster de la protection fait état du chiffre suivant, 40 à 60% des personnes actives dans les milices seraient des mineurs d'âge, donc des enfants. Et donc ce sont des enfants qui sont au combat, en confrontation directe avec les forces de sécurité de la République démocratique du Congo. Et donc c'est un premier effet direct sur les enfants. C'est qu'il y a un nombre important, nous n'avons pas de chiffres, mais nous savons que c'est un nombre important d'enfants qui sont tués dans les combats, qui sont victimes directement dans les combats. Mais il y a également l'impact indirect du conflit sur les enfants. Il faut se rendre compte, vous faisiez mention là tout à l'heure du 1,5 million de personnes ayant fui leur domicile, donc étant déplacées, la grosse majorité d'entre eux à l'intérieur du Kasaï. Nous estimons que 850 000, il s'agit de 850 000 enfants.
Ah oui.
Et que ça sont des enfants qui aujourd'hui ou les mois passés ont survécu dans la brousse sans accès aux soins de santé, sans la possibilité de poursuivre leur école, avec toutes les conséquences que ça peut avoir au niveau de leur survie et au niveau de leur développement.
Évidemment, des centres de santé qui ne fonctionnent plus, ou en tout cas en partie, puisqu'ils sont régulièrement attaqués par les différentes milices qui s'opposent dans les provinces du Kasaï. Les écoles aussi sont attaquées.
Oui, en effet, nous avons plus de 400 cas d'écoles qui ont été attaquées, qui ont été pillées, qui ont été brûlées, qui sont occupées par des forces de sécurité ou par des miliciens, et où donc l'éducation a été interrompue pour une certaine période. Heureusement, aujourd'hui, la situation s'améliore dans une grande partie du Grand Kasaï. Et nous avons pu, en tant qu'UNICEF, lancer une grande campagne de retour à l'école en septembre qui vise tous les enfants du Kasaï et qui vise plus particulièrement un groupe de 150 000 enfants que nous avons identifiés comme étant parmi les plus vulnérables et pour qui on assure le retour à l'école.
Merci beaucoup Yves Villemot d'avoir pris quelques minutes ce matin pour répondre à Claude qui nous contactait de Douala. Yves Villemot, chef de la communication de l'UNICEF en République démocratique du Congo. Reste avec nous, on revient dans 10 minutes pour notre débat du jour. Il sera question de la République démocratique du Congo justement et du report des élections. À tout de suite.